Radio Okapi.
Okapi. Le journal, présenté par Blaise Shindani Kambala.
D'abord, les titres de ce journal. La première édition du Festival mondial de la musique et du tourisme a ouvert ses portes hier mercredi à Kinshasa. À cette occasion, Félix Tshisekedi a exprimé le souhait que cet événement contribue à raffermir l'unité nationale et à redorer l'image de la RDC. Le coup d'envoi du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle 2025 sera donné ce jeudi 17 juillet à travers toute la République ainsi que dans des centres d'examen situés aux frontières. L'inspecteur général à l'éducation nationale l'a confirmé hier mercredi lors d'une déclaration faite devant les médias à Kinshasa. L'invité de ce journal, c'est Tombola Mouké, directeur général de l'École nationale d'administration. On les reçoit alors que cette institution de formation des hauts cadres de l'administration publique fête ses 10 ans d'existence. L'occasion donc de faire le bilan. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition du journal du matin. La première édition du Festival mondial de la musique et du tourisme a ouvert ses portes hier mercredi au Centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale à Kinshasa. À cette occasion, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a exprimé le souhait que cet événement contribue à raffermir l'unité nationale et à redorer l'image de la RDC. Il s'est réjoui que ce festival inaugure une nouvelle ère de paix et de développement durable à travers le pays. Un extrait du discours de Félix Tshisekedi, proposé par Blaise Ndongala Mayanda.
Ce festival incarne pleinement notre volonté de mobiliser les forces culturelles et créatives de la nation pour raffermir l'unité nationale et projeter avec fierté et ambition une image renouvelée, positive et inspirante de la République démocratique du Congo sur la scène internationale. À travers sa thématique « La route de la rumba » pour la paix en République démocratique du Congo, ce festival se veut un carrefour d'échanges, un pont entre les cultures du monde, une célébration de la diversité comme levier de paix et d'harmonie entre les peuples. Il met en lumière avec force le rôle de la musique comme moteur de voyage, de dialogue interculturel, de valorisation identitaire, mais aussi comme catalyseur de développement économique. Il souligne également avec pertinence le rôle structurant du tourisme dans la consolidation de la paix, la préservation de l'intégrité territoriale et la lutte contre la pauvreté dans notre pays.
Placé sous le thème « La route de la rumba », ce festival de 3 jours se déroule simultanément au Centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale, à l'esplanade du Palais du Peuple et à l'échangeur de Limité à Kinshasa. Le coup d'envoi du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle, TENASOSP, 2025 sera donné ce jeudi 17 juillet à travers toute la République, ainsi que dans des centres d'examen situés aux frontières. L'inspecteur général à l'éducation nationale l'a confirmé hier mercredi lors d'une déclaration faite devant les médias à Kinshasa. Hubert Kimbonza a assuré que toutes les dispositions ont été prises pour garantir le bon déroulement de cette épreuve certificative, y compris dans les provinces sous occupation. Ces propos sont recueillis par Blaise Ndongala Mayanda.
Les épreuves du TENASOSP sont prévues pour les dates du 17 et du 18 juillet 2025. Et donc, c'est déjà demain. Toutes les dispositions ont été prises. Les cahiers d'items ont été acheminés jusqu'au plus fin fond de notre pays. Et pour ce qui est de la province de l'Ituri, le gouvernement s'était décidé pour prendre aussi en charge les frais de participation des candidats de l'Ituri. Ce n'est qu'après un mois que l'engagement sur le paiement des intervenants du Nord Kivu et du Sud Kivu a évolué que nos députés nationaux de l'Ituri avaient aussi introduit ces besoins. C'est tout à fait logique que dans les traitements de ces dossiers, nous puissions connaître un retard. Il y a bien sûr des mauvaises langues qui sont en train de mal interpréter ces retards, parce que demain, c'est les TENASOSP, il faut bloquer pour que l'on dise que le gouvernement ne veut pas agir. Et ça, c'est faux.
Éducation encore, la mesure du ministère de l'Éducation et de la Nouvelle Citoyenneté ordonnant le maintien des filles enceintes dans les établissements scolaires continue de susciter des réactions. La Coalition nationale de l'éducation pour tous salue cette décision qui, d'après elle, rétablit un accès équitable à l'éducation tant pour les filles que pour les garçons. C'est le coordonnateur de cette structure de la société civile qui l'a déclaré hier mercredi à Kinshasa. On écoute Jacques Chimbalanga au micro d'Askin Zigbatayoro.
Quand vous allez dans plusieurs écoles non conventionnées, le problème ne se pose pas. Même dans certaines écoles confessionnelles, dans les écoles conventionnées islamiques, ce problème-là ne se pose pas. Nous comprenons ce que l'on dit sur la question de moralité, mais la morale n'est pas au-dessus de la loi. Parce qu'une fille qui tombe enceinte pendant sa scolarité, il faut la considérer comme une victime. Vous ne connaissez pas les conditions qui ont fait qu'elle tombe enceinte. Vous avez votre enfant qui est dans cette situation. Vous allez la jeter à la poubelle. Cette circulaire vient corriger une injustice sociale. Il y a des cas où ça arrive entre élèves. Ils peuvent être des écoles différentes ou de la même école. Que fait-on du garçon? Donc la victime, c'est seulement la fille. Je crois que si nous voulons l'équité, il faut être juste dans la vie. Et cette circulaire vient rendre justice. Et il convient donc aux hommes sensés, aux femmes sensées, de l'applaudir et d'appuyer. Parce que nous avons perdu dans ce pays beaucoup de filles, beaucoup de femmes de valeur. Parce que quelque part dans la vie, ils ont trébuché. Elles ont été grosses. Il ne s'agit pas d'une importation, mais l'observation de ce qui se passe dans notre pays.
En Ituri, une centaine de familles ont abandonné leur maison depuis hier mercredi matin au village de Djouti et sa périphérie aux environs de Bounia. C'est suite à une tension communautaire entre le groupement des Babiazé et celui des Délé sur le problème de délimitation de leurs entités coutumières. Des coups de feu attribués aux jeunes ont été entendus dans les milieux, créant une psychose dans les quartiers à la périphérie de Bounia où on signale également les déplacements des population. Isaac Remoyope.
C'est depuis vendredi dernier que la tension monte d'un cran entre les deux parties qui revendiquent le village de Djouti, Talieba et Nginda. Les autorités coutumières du groupement des Délé et leurs voisins des Babiassé disent tous détenir des titres sur ce terrain. Des centaines de jeunes munis de machettes ont envahi le même vendredi le village de Djouti où ils ont menacé les occupants. Pour éviter l'escalade des violences, l'administrateur du territoire d'Irumu a réuni les parties à conflit pour les appeler au calme. Ce mercredi, des jeunes munis d'armes ont tiré plusieurs coups de feu. Il y aurait deux blessés par balle et une femme portée disparue. Plus d'une centaine de familles installées au village de Djouti et ses environs quittaient leur maison par peur d'être agressées, précisent des témoins. Certains habitants du quartier Lengabo ont fermé leurs portes pour s'installer au cœur de la ville. Des voix s'élèvent pour demander l'implication du gouvernement en vue de décrisper la tension entre les deux communautés. Signalons que les terrains qui font l'objet des conflits fonciers sont devenus des sources importantes de revenus pour des communautés locales. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Au sud Kivu, pendant ces temps, la situation humanitaire des personnes déplacées dans les moyens et hauts plateaux de Fizi reste extrêmement préoccupante dans cette partie de la province. Selon l'administrateur du territoire, ces populations fuient les affrontements entre les forces armées de la RDC soutenues par les Wazalendo et la coalition armée composée des Red Tabara, Toaguinéo et M23 AFC dans les hauts et moyens plateaux. Pour Sami Kalonjibadibanga, ces déplacés vivent dans des conditions inhumaines, privés des besoins essentiels et exposés à des multiples risques. Il se réjouit toutefois de la présence depuis quelques jours d'une délégation humanitaire remarquée dans la zone venue évaluer les besoins de ces personnes. Sami Kalonjibadibanga s'est exprimé au micro de Ronéline Tibonera.
Nous saluons l'arrivée d'une avalanche de partenaires humanitaires à Fizi, venus pour une mission précise consistant à évaluer les besoins, localiser les déplacés et les enregistrer pour d'éventuelles assistances. Ces déplacés sont essentiellement ceux des moyens et hauts plateaux de Fizi, issus des affrontements opposant le FRDC appuyé par les Wazalendo contre le Red Tabara Tukaneo pro M23 de triste mémoire.
Au Maniema, M. Okolonga Lufungula est désormais reconnu comme chef de la chefferie des Bangengele. Cette décision a été rendue par la Commission consultative de règlement des conflits coutumiers CCRCC Maniema, qui s'est penchée sur un différend au sein de la famille régnante Lufungula. Le conflit opposé Okolonga Lufungula à Linganja, Athanase Pene Lufungula, chef en fonction. Selon le président de la commission, après une analyse approfondie du dossier, il a été établi qu'Okolonga Lufungula, issu de la deuxième génération, mérite d'occuper cette fonction. On écoute Chukwu Lokalepene Wembo Fils, président de la commission, au micro de Florence Kizalunga.
Considérant que M. Okolonga Lufungula a été régulièrement désigné par la majorité des membres de la famille régnante Lufungula de la deuxième génération comme successeur du fait chef Okitolo Hekele Raimo, conformément à la coutume locale, en date du 7 novembre 2020, la commission consultative de règlement des conflits coutumiers en province du Maniema, CCRCC en sigle, siégeant en premier degré, prononce la sentence en considérant que la requête introduite par M. Okolonga Lufungula est recevable et fondée. Par conséquent, Okolonga Lufungula a été légalement désigné par la famille régnante Lufungula conformément aux us et coutumes pour diriger la chefferie de Bangengele. Y égard de tout ce qui précède, la CCRCC provinciale recommande aux autorités tant provinciales que nationales de rétablir l'ayant droit à la succession, M. Okolonga Lufungula, membre de droit à cette succession.
En plus bref, l'intérim à la tête du gouvernorat du Haut-Katanga est assuré depuis hier mercredi par Martin Kazembe, le vice-gouverneur de cette province. Il a officiellement été notifié via un télégramme du vice-ministre des Affaires coutumières, Jean-Baptiste Ndézé. Le télégramme évoque l'indisponibilité du gouverneur Jacques Kiaboula. Convoqué à Kinshasa, ce dernier n'avait pas pu faire le déplacement. Ses proches évoquent des raisons de santé pour justifier cette absence. Les motifs exacts de sa convocation à Kinshasa n'ont pas été précisés. À Kananga, les forces sociales et politiques ont organisé hier mercredi une marche pacifique pour dénoncer l'implication jugée illégitime du vice-premier ministre de l'Intérieur dans la crise qui secoue l'Assemblée provinciale. Cette mobilisation s'est déroulée malgré l'interdiction formelle de cette manifestation par la mairie. Le conflit est né de la destitution contestée du bureau de l'Assemblée provinciale par 16 députés sur les 32 que contre l'institution. Cette démarche est dénoncée comme irrégulière selon les manifestants car elle violerait les dispositions du règlement intérieur qui exige un quorum de 18 députés pour siéger et une majorité pour prendre une décision. Voici un extrait de leur mémorandum adressé au chef de l'État, lu devant les gouverneurs intérimaires à la suite de leur manifestation.
Cette décision impopulaire qui bafoue la volonté de la majorité et la stabilité institutionnelle se trouve autant plus préoccupante qu'elle semble bénéficier du soutien du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Il est paradoxal qu'une autorité prônant la stabilisation des institutions provinciales connaisse un bureau issu d'irrégularités aussi flagrantes. Notre province a trop souffert des multiples formes de la déstabilisation depuis 2007 jusqu'à ce jour. Ce type de comportement freine de manière significative le développement de notre province, longtemps secouée par les hostilités dites de Kamouenansapou. Par conséquent, nous sollicitons votre haute implication, Excellence Monsieur le Président de la République, afin que lumière soit faite sur des irrégularités et que les mesures correctives nécessaires soient prises pour garantir le respect de la légalité et la restauration de la légitimité au sein de l'Assemblée provinciale du Kassai central.
Revenons à Kinshasa pour parler de la quatrième livraison de notre série de reportages. Après avoir constaté le chaos sur les routes de Kinshasa, il est temps de se tourner vers l'avenir. Quelles sont les solutions pour sortir de cette anarchie routière? Ce reportage explore les pistes, les initiatives et les espoirs pour construire l'ordre sur nos artères. Michel Kifindangoy.
Des urbanistes aux spécialistes de la sécurité routière, des voix s'élèvent pour penser une ville de Kinshasa où la route ne serait plus un enfer. On écoute cet urbaniste.
Le problème de Kinshasa est systémique. Il faut juste repenser à l'urbanisme, mais aussi la formation des conducteurs. C'est un travail de longue haleine, mais des solutions existent.
Et sur le terrain, ces efforts pour fluidifier les trafics sont visibles, parfois sous l'impulsion de la police de circulation elle-même.
Ce n'est pas facile, mais on essaie de faire notre travail. Quand les citoyens collaborent, même un peu, on voit la différence. Il faut plus de personnel.
Un renforcement drastique de la formation et de la délivrance des permis, la digitalisation du contrôle routier et bien sûr des infrastructures adaptées sont parmi des solutions envisageables.
Vous savez, la technologie peut jouer un rôle clé. Des applications pour signaler des infractions, des caméras de surveillance intelligentes, des systèmes de gestion du trafic.
Kinshasa, au-delà de l'anarchie, reconstruire l'ordre sur les routes kinoises passera par la volonté politique, l'engagement citoyen et surtout par une répression juste et non corrompue. C'est le prix à payer pour que la capitale congolaise sorte enfin du chaos routier.
Actualité internationale.
Au Togo, dès ce jeudi matin, les citoyens élisent leur maire et leurs conseillers municipaux pour les 117 communes que compte le pays. Ce sont les troisièmes élections municipales de l'histoire du Togo et les premières de la nouvelle République définitivement instaurées début mai. Mais ces scrutins se déroulent dans une situation sociopolitique tendue avec le mois dernier des manifestations interdites et réprimées par le gouvernement togolais.
L'invité
de la rédaction est Mouke Tombola, directeur général de l'École nationale d'administration ENA. On le reçoit alors que cette institution de formation des hauts cadres de l'administration publique fête ses 10 ans d'existence. L'occasion donc de faire le bilan. 743 lauréats ont été mis à la disposition de l'État congolais au cours des 10 dernières années. Se réjouit son directeur général Tombola Mouke. Ses mandataires publics saluent également le rôle de l'ENA dans la promotion d'une culture d'excellence et du service public au bénéfice des citoyens et du développement national. Tombola Mouke s'entretient avec Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour monsieur le directeur général.
Bonjour.
Quel est l'essence que vous donnez à cette cérémonie décennale?
La rédévabilité. L'ENA a pour mission de former de hauts fonctionnaires qui devront se charger de la transformation de l'appareil administratif de l'État. Ces travaux de transformation, il faut le continuer. À travers notamment des exercices similaires, il faut que l'ENA se montre exemplaire. Dans le cadre de notre plan stratégique 2025-2027, autour de l'ambition de reformer l'ENA pour reformer l'État, on veut placer l'ENA au cœur des institutions pour influencer le changement tant attendu par de notre appareil administratif, tant attendu par tout le monde. Mais avant de prétendre diffuser ainsi les bonnes pratiques, il faut que l'ENA elle-même se montre exemplaire. Cette exemplarité commence précisément par ces genres d'exercices de rédévabilité. Donc pour nous, c'était un moment important, un moment d'arrêt, pour regarder d'où nous venons, où nous allons, pour rendre compte au public. J'ai cité dans ma présentation tout à l'heure deux auteurs américains, Daron Acemoglu et James Robinson. Je parlais de leur ouvrage « Pourquoi les nations s'effondrent ». Ils insistent sur la qualité des institutions. Et dans un second ouvrage, ils parlent du corridor étroit. Pour eux, et c'est là où je situe aussi la mission de l'ENA, c'est renforcer les capacités de l'État, non pour dominer la société, mais pour mieux la servir. Donc, le travail que nous faisons, c'est renforcer les capacités, outiller les élèves et les apprenants pour mieux servir l'État. Dans cet équilibre entre un État fort, mais pour maintenir l'ordre, un État efficace, mais pas trop fort pour ne pas écraser les libertés et l'innovation. Donc voilà, pour moi, le sens de la cérémonie de ce jour.
En 10 ans, quel bilan donnez-vous à cette institution?
Je pense que le bilan est positif. La mission de l'école a été remplie. 9 promotions d'élèves recrutés et formés. La 9e est en cours de formation. 743 énarques mis à la disposition de l'État employeur. Et ils sont très appréciés. Ils sont formés, recrutés d'abord de manière très compétitive, formés avec exigence. Ils sont en train d'aider à transformer l'appareil administratif. Et je pense donc que la mission de l'école est remplie et que le produit de l'école font un travail apprécié par tous.
Vous avez connu un parcours élogé. Est-ce qu'avez-vous aussi rencontré quelques difficultés?
Oui, les difficultés ne manquent pas. Il y en a eu, notamment du fait du contexte budgétaire, du contexte des finances publiques qui est resté difficile pendant ces 10 ans. Mais je pense que le plus important, c'est le résultat obtenu et le résultat demeure positif.
Alors, quelles sont vos perspectives d'avenir?
C'est maintenir les caps, préserver les acquis et grandir. Grandir déjà en termes de capacité d'accueil, il faut un campus plus grand. Et puis grandir en termes de beaucoup d'autres projets, de la qualité de la gouvernance qu'il faut améliorer. C'est pour cette raison qu'on est en train de mettre en place un système de management de la qualité pour orienter l'institution vers la performance, vers la conformité légale et réglementaire, vers la satisfaction des exigences des parties intéressées pertinentes. C'est aussi la dématérialisation, la digitalisation. Et enfin, c'est vraiment, comme je l'ai indiqué, mettre l'ENA au centre des institutions pour lui permettre, au-delà des produits qui sont formés, de continuer à transformer. À transformer sous forme de conseils, sous forme d'appui institutionnel, tous les autres services publics.
Monsieur Tombola Mouké, nous vous disons merci.
Merci.
Tombola Mouké, notre invité s'entretenait avec Blaise Ndongala Mayanda et c'est par ici que nous mettons un point final à cette grande édition du journal coordonnée et supervisée par Poli Mouzalia et Alain Irongo Moshinj, mise en onde par Jean-Claude Nsiala Mwana Makengo Ntswalu. Merci de nous avoir suivis.